enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Alléluia. Donc on va faire notre déclaration de la foi qu'on aime faire ici, à la vie comblée, parce qu'on ne veut pas juste passer un autre dimanche matin, écouter un autre sermon. On veut vraiment être changé par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu ce matin. Amen. Donc, on croit que ce livre ici est inspiré de Dieu. On croit de tout notre cœur que c'est Dieu qui nous parle. Et si on reçoit la parole de Dieu avec un cœur qui est réceptif, avec la foi, on sait que ce livre peut transformer notre vie. Donc, on va faire notre déclaration de la foi. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Est-ce que vous avez pensé à ce que vous venez de dire là? On va le dire encore. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Amen. Oh, juste arrêtons, hein? Ouvrons une parenthèse. La Bible dit que vous êtes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai? La Bible dit que vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Wow! Toutes ces choses que Dieu dit à propos de vous, c'est vrai. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Wow! La Bible dit que vous êtes héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est-à-dire, toutes choses sont à nous en lui, n'est-ce pas? Toutes les choses dont nous avons besoin, nous l'avons en Jésus-Christ. Toutes les choses. Puis, on va dire ceci. Je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Qu'est-ce que la Bible dit que tu peux faire? Je puis quoi? Tout par celui qui me fortifie, n'est-ce pas? C'est pas pire, hein? Gloire à Dieu. Donc, on va le dire encore. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil. Mais je serai changé et transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, on va aller voir qu'est-ce que la Bible dit. Ce matin, on continue une série qu'on a commencée la semaine passée, le pouvoir de faire une différence. Je crois que dans le cœur de chaque personne, probablement, sans exception, ici dans cette salle, on a tous le désir de faire une différence dans notre vie. On veut faire une différence dans notre société, on veut faire une différence dans nos familles, on veut faire une différence au travail, on veut faire une différence dans notre quartier. Moi, en tout cas, je veux faire une différence dans le monde francophone. Et vous? Je sais que notre Église a une mission et nous avons une vision de faire un impact sur la ville de Drummondville, la province du Québec, la francophonie et au-delà par la puissance de la bonne nouvelle de Jésus. Et cette différence que nous allons faire, c'est pas à travers notre force, c'est pas parce que nous sommes plus fins, plus doués que les autres, mais c'est parce que Dieu est en nous, il est avec nous et c'est son idée à lui, n'est-ce pas? Combinez-vous, vous savez que Dieu veut que vous ayez du succès dans votre vie. Il veut que vous fassiez une différence. Donc, c'est pas, des fois, les personnes, ils osent pas croire que Dieu peut se servir d'eux parce qu'ils pensent que c'est prétentieux. Ils pensent des fois que c'est orgueilleux même de croire que Dieu peut se servir d'eux pour faire quelque chose dans la vie. Mais c'est pas vrai. Dieu a planifié avant la fondation du monde que vous soyez là. Et Éphésiens 2:10 dit que nous sommes son ouvrage. Et on a été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance, afin que nous les pratiquions. Donc, savez-vous que Dieu a un plan pour votre vie? Et c'est son plan que vous ayez du succès et que vous soyez capable de faire une différence. On va lire encore une fois ce matin, Malachie chapitre 3, parce que c'est un peu notre texte clé pour nous donner la base de cette série, le pouvoir de faire une différence. Et en verset 16 de Malachie 3, on lit ceci. « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, et l'Éternel fut attentif, et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. » N'oubliez pas que Dieu est en train de prendre des notes. Il écoute qu'est-ce qu'on dit, ceux qui parlent entre eux et ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui ont de l'honneur, qui honorent son nom, Dieu prend ça en note. N'est-ce pas intéressant? Alléluia! Combien de vous, vous voulez que Dieu écrive des bonnes choses à propos de vous, hein? Qu'est-ce qu'il a écrit cette semaine? Pensons quelques minutes à la semaine qu'on vient de passer. Quel genre de choses est-ce que nous avons dit entre nous? C'est pas moi qui invente ces choses. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. La Bible dit que les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, n'est-ce pas? Donc, Dieu nous regarde, Dieu nous écoute et Dieu prend note de qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que Dieu cherche, il est à la recherche des héros. On enseigne cela aux enfants actuellement, les héros de la foi, que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Il cherche des personnes qui l'aiment, il cherche des personnes qui ont de la foi, parce qu'il cherche les personnes qui sont prêtes à travailler avec lui pour accomplir sa volonté ici sur la terre. Amen. Donc, les yeux de l'Éternel sont sur nous, ses oreilles sont attentives à nous, à nos paroles et à nos prières. Il écouta et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Donc, ça, c'est une bonne question à se poser. Qu'est-ce que le Seigneur a écrit? Qu'est-ce qu'il a marqué dans son livre de souvenirs à propos de nous cette semaine? Peut-être, en faisant une évaluation, on va dire, on n'a pas donné grand chose à lui à écrire dans son livre. Cette semaine qui s'en vient, on va faire mieux, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes là? Mais qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée? C'est qu'il y avait deux éléments essentiels. Si on va vraiment faire une différence dans le monde, ça c'était la crainte de l'Éternel et l'honneur pour son nom. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront. Au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence. Comment on dit la différence? Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et ça, c'est un peu la base de notre série. Dieu veut qu'il y ait une différence entre nous qui sommes chrétiens, nous qui servons l'Éternel, nous qui avons développé la crainte de Dieu et l'honneur pour son nom, il faut que le monde soit capable de voir une différence entre nous et eux. Amen? Et trop souvent, il n'y a pas de distinction entre les chrétiens et les non-chrétiens. Trop souvent, les chrétiens et les non-chrétiens, ils parlent le même langage, ils ont les mêmes habitudes, ils ont les mêmes problèmes, il n'y a aucune différence entre eux. Et il y a des personnes qui vont dire, mais tu sais, dans le fond, on est juste des pécheurs sauvés par la grâce. Il y a même des personnes qui vont dire, hey, tu sais, les chrétiens, de toute façon, on n'est pas parfaits, on est juste pardonnés. C'est un peu dangereux de parler comme ça. Parce qu'on est plus que pardonnés dans le Seigneur Jésus. On est pardonnés, oui. Dieu a effacé tout l'acte et l'ordonnance qui était contre nous, il a cloué à la croix toutes les mauvaises choses qu'on a fait et mes péchés ont été lavés, je suis pur, je suis blanc comme la neige dans mon cœur parce que Jésus a payé le prix pour moi. Je suis pardonné. Mais la Bible dit qu'on est plus que pardonné, on est aussi justifié. C'est-à-dire qu'on est aussi régénéré. Dieu a enlevé le cœur de pierre. Il a enlevé la nature pécheresse qui était en moi et il a mis en moi un cœur nouveau, une nouvelle nature. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, n'est-ce pas? Mais si vous ne savez pas que vous êtes une nouvelle création, vous allez peut-être continuer à vivre comme la vieille création, n'est-ce pas? Il faut qu'on sache que Dieu nous a transformés, il nous a régénérés dans notre cœur. Nous ne sommes plus des pécheurs sauvés par la grâce. Nous étions les pécheurs. Nous étions destinés pour l'enfer. Nous avons fait confiance à Jésus. Nous avons confessé avec notre bouche le Seigneur. Nous avons cru dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Nous avons été transportés du royaume des ténèbres. Nous sommes maintenant nés de nouveau dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous sommes maintenant enfants de la lumière. Nous n'en sommes plus les enfants des ténèbres. Nous sommes la nouvelle création. Est-ce que vous êtes là? Ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Donc, j'étais pécheur, mais aujourd'hui, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que cela veut dire que je suis parfait? Non. Est-ce que cela veut dire que j'ai jamais l'occasion de tomber? Non. Même les chrétiens qui sont justifiés, qui sont la justice de Dieu, s'ils font pas attention, ils peuvent quand même trébucher, ils peuvent quand même tomber, ils peuvent commettre les actes qui sont pas corrects, qui sont pas conformes à la volonté de Dieu. Ils peuvent pécher. Et si on pêche, la Bible dit, en Jean 1:9, si nous péchons, nous pouvons confesser nos péchés. Et il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous justifier, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ça doit être l'exception, mais non pas la règle. Si nous péchons, la Bible dit pas quand vous péchez, mais si. Il y a des personnes qui enseignent qu'un chrétien est obligé de pécher une fois par jour au moins. J'ai déjà entendu les pasteurs prêcher cela. Que vous savez, nous sommes juste les pécheurs sauvés par la grâce et nous allons tous pécher à tous les jours. Mais ma Bible ne dit pas ça. Ma Bible dit en 2 Pierre chapitre 1, vous devrez le lire comme faux, que nous avons maintenant, nous avons à travers les précieuses promesses de Dieu la capacité de participer à la nature divine. Et la Bible dit que si ces choses sont en vous avec abondance, que ça va faire en sorte que nous ne trébucherons plus jamais. Savez-vous qu'il y a quelque chose dans notre mentalité? Savez-vous, la plupart de nous, les chrétiens, nous avons des problèmes mentaux. C'est vrai. Le problème est entre nos oreilles. On a besoin de renouveler notre intelligence et de penser différemment. Parce que laisse-moi vous dire, si vous pensez que vous êtes un pécheur et vous êtes programmé à penser que à tous les jours, je vais pécher. Devinez quoi? Qu'est-ce que vous allez faire tous les jours? Vous allez pécher. L'occasion se présente, vous dites, mais de toute façon, ça doit être le temps. Parce que aujourd'hui, c'est évident, je vais pécher aujourd'hui, et bon, ça c'est l'occasion, bon, on y va, on va y fort. Non, c'est pas ça que la vie chrétienne. La vie chrétienne est différente, tout le monde est différent. On ne vit pas comme les pécheurs, nous sommes la justice de Dieu. Lisons la Bible, lisons qu'est-ce que l'apôtre Jean dit. Si la semence de Dieu est en vous, on ne peut pas continuer dans le péché. Romains 6, lisons la Bible comme il faut, mes frères, mes sœurs, et on va voir que nous sommes appelés à être différents. Et que Dieu nous donne le pouvoir d'être différents. C'est pas une question de juste utiliser le pouvoir de la volonté, la force de la volonté. Non, je veux pas. Parce que plus on essaie ça, plus on tombe dans le mal. Est-ce que vous avez remarqué? Plus on dit, oh, je vais pas le toucher, je vais pas manger le quatrième bol de crème glacée, puis on finit par faire quoi? Manger la crème glacée, n'est-ce pas? Mais c'est pas ça. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de bien important. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas que nous sommes appelés à être différents. Mais que la différence que Dieu veut faire dans notre vie, c'est une différence que lui, par son pouvoir, par son esprit, il va nous rendre capables de l'accomplir. On l'a lu la semaine passée, Philippiens chapitre 2. C'est Dieu qui est en vous, qui vous donne le vouloir et le pouvoir selon son bon plaisir, n'est-ce pas? Si tu veux, tu peux. Tout le monde dit, si je veux, je peux. Amen. Mais juste avant de continuer plus loin là, parce qu'on va voir une clé, importante aujourd'hui. Mais il y a deux points que je veux souligner. On va parler de la simplicité d'une vie efficace. Ou on peut dire une vie différente. On va voir aujourd'hui que c'est pas compliqué d'avoir une vie différente en Jésus-Christ. En fait, on va voir le contraire, que c'est simple vivre pour Jésus. c'est simple être différent. J'ai pas dit que c'est facile, mais c'est simple. Comprenez-vous la différence entre simple et facile? Oui? Mais première chose qu'il faut dire ce matin, c'est que le péché rend la vie plus compliquée. C'est dans vos notes. Le péché rend la vie plus compliquée. Regarde votre voisin, dit le péché rend la vie plus compliquée. Parce que des fois, je vais entendre les chrétiens dire, « Oh, mais c'est dur, la vie chrétienne. » Est-ce que vous avez entendu ça? « Ah, c'est pas facile, c'est vraiment dur de vivre pour Jésus. » Laisse-moi vous dire, c'est pas dur de vivre pour Jésus. C'est dur de ne pas vivre pour Jésus. Ça fait pas mal vivre pour Jésus. Ça fait mal de ne pas vivre pour Jésus. C'est le péché qui complique la vie. Dieu avait un plan pour la race humaine. Son plan était simple. Il a créé Adam, il a créé Ève, les ont placés dans un jardin. Adam voit Ève, oh là là! Le paradis! Même pas besoin d'aller au travail! Juste cueillir du fruit qui pousse en abondance autour de moi. La vie était belle, vous êtes d'accord? C'était le paradis. Un jardin. Et c'était simple. Tout ce que Adam avait besoin de faire, c'était aimer Dieu et aimer sa famille. N'est-ce pas? Il n'avait pas autre chose. Et il avait, bien entendu, il avait besoin de protéger le jardin aussi. Protéger. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y avait d'autres êtres présents, n'est-ce pas? Donc, il avait besoin de faire cela, mais c'est quand même, c'est pas compliqué, la vie. On mange, on est en amour, on aime Dieu, on parle avec Dieu, et on parle avec notre épouse, et on fonde une famille, la vie est belle! Mais la vie est devenue pas mal plus compliquée le moment que Adam et Ève ont désobéi à Dieu, n'est-ce pas? Dès que... laisse-moi vous dire, la vie était tellement simple, ils n'avaient même pas besoin de se tenir, mesdames, devant la garde-robe, dire, mais qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui? Même pas besoin de choisir, n'est-ce pas? C'est facile, on porte la même chose à tous les jours, la gloire de Dieu. Ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Mais c'est le péché qui a ouvert la porte à la confusion. C'est le péché qui a fait en sorte qu'ils avaient besoin d'aller se cacher. Où est-ce qu'on va se cacher? Il faut trouver une place. Qu'est-ce qu'on va faire pour couvrir notre nudité? Il faut trouver une solution. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va dire à Dieu? C'est la femme que tu m'as donnée. N'est-ce pas? C'est le péché qui complique la vie. Mais je veux juste lire ce verset ici en Deutéronome 30, verset 19. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. » Souligne cela. « Choisis la vie. » La vie est un choix. « Afin que tu vives, toi et ta postérité, pour faire quoi? » Pour aimer l'Éternel, ton Dieu. Vous savez, c'est pas compliqué. Dieu veut qu'on fasse une chose dans la vie. C'est simple. Et on va parler de ça dans une minute. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré à donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Donc encore, la vie que Dieu a planifiée était simple, c'est le péché qui l'a compliquée. C'est après avoir péché qu'ils avaient besoin de s'habiller, ils avaient besoin de travailler à la sueur de leur front, que même la douleur dans l'enfantement était augmentée, n'est-ce pas? Toutes ces choses, ces problèmes n'existaient pas avant la chute d'Adam et Ève. Mais qu'est-ce que je veux que vous remarquiez? Et en fait, il y a cinq domaines, A, B, C, 2, A, B, C, D, E dans vos notes que j'aimerais juste que vous réfléchiez quelques minutes pour que vous voyez jusqu'à quel point le péché complique la vie. Lettre A, le péché complique la vie au niveau des décisions qu'on a besoin de prendre. Il y a les décisions qu'on a besoin de prendre à cause du péché que si on ne pêche pas, on n'a pas besoin de prendre ces décisions. Il y a certaines choses, c'est déjà trop tard. Dans le sens qu'il y a une malédiction de la chute que la Bible parle. Vous savez que quand Adam et Ève ont péché, Dieu a prononcé un jugement. Il y avait une malédiction qui est tombée sur la race humaine et sur la planète Terre. Et on n'est pas racheté de la malédiction de la chute. Vous comprenez? C'est-à-dire que si vous dites... Parce que la Bible dit que nous sommes rachetés de la malédiction de la loi, n'est-ce pas? Mais la malédiction de la loi, ce n'est pas la malédiction de la chute. Il ne faut pas les confondre. Parce que des personnes qui disent « Oh, je suis racheté de la malédiction de la loi, donc je ne vais plus travailler. » Parce que Adam n'avait pas besoin de travailler avant la chute. Mais non, écoute, vous confondez deux choses là. La malédiction de la loi, c'est une chose. On voit ça en Deutéronome 28, 29, etc. Mais la malédiction de la chute, nous aurons toujours besoin de travailler jusqu'à l'enlèvement, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui pensent que parce que nous sommes rachetés de la malédiction, les femmes ne devraient jamais plus avoir le moindre douleur dans l'accouchement. Mais mesdames, je pense que vous pouvez témoigner que ça ne marche pas comme ça. Vous êtes d'accord? Il y a des personnes qui vont dire, exemple, « Oh, mais écoute, Adam et Ève sont morts à cause de la chute. Je suis racheté dans la malédiction de la loi, donc je ne vais plus mourir. » Ça, c'est faux. C'est fou, hein? On va tous mourir physiquement, à moins que Jésus vienne nous enlever avant. Vous êtes d'accord? Mais on est racheté de la malédiction de la loi. On n'a pas le temps d'en parler là. Mais la malédiction de la loi, c'est la mort spirituelle, la pauvreté et la maladie. Ça, c'est une autre chose. Et là, je vois qu'il y a des personnes qui disent, « Ah, mais qu'est-ce que vous voulez dire? » Une autre fois, on peut regarder ça dans la parole comme faux. Mais je veux que vous voyez quelque chose là. C'est que Dieu veut qu'on choisisse la vie. Et c'est parce que Adam et Ève ont péché, que le péché est entré dans le monde, et maintenant, quand on donne notre vie au Seigneur Jésus, on est passé de la mort à la vie, on est né de nouveau, mais nous, en tant que chrétiens, nous avons quand même des décisions à prendre à tous les jours, n'est-ce pas? Mais les décisions que nous aurons à prendre vont être beaucoup plus faciles et moins compliquées si on marche dans la lumière comme il est dans la lumière, versus si on marche dans le péché comme les autres personnes du monde. Il y a des décisions que moi, j'ai jamais besoin de prendre. Est-ce que je vais tromper mon épouse? Parce que, oh, il y a une belle femme, là, qui s'intéresse à moi. Est-ce que je vais avoir une aventure avec elle? Ça, c'est même pas une question pour moi. Donc, mais vous savez qu'il y a des personnes dans notre monde qui sont tourmentées. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste avec mon épouse ou est-ce que je la laisse pour aller avec elle? Ils sont tourmentés par les décisions. Est-ce que je peux être franc avec vous ce matin pour vous réveiller? Hein? Est-ce que je vais utiliser un condom ou est-ce que je n'utilise pas un condom? Laisse-moi vous dire, les ados ici, même pas besoin d'être tourmenté par la décision d'utiliser ça ou pas utiliser ça. Si vous n'êtes pas marié, la décision est déjà prise. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Hein? Où est-ce que je vais acheter la drogue? Où est-ce que je vais consommer, est-ce que je ne vais pas consommer? Une fois que notre vie est confiée à l'Éternel et on déclare que c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur de la vie et c'est lui qui est mon maître, il y a 90% de ces décisions sont déjà prises pour vous. Est-ce que vous êtes là? Et c'est beaucoup, beaucoup plus simple comme ça. Pas besoin de décider, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais... Il y a plein de choses qui sont déjà établies dans la parole de Dieu et la décision est prise pour nous. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Au niveau de lettre B, les relations. Les relations sont simplifiées. Est-ce que je dois sortir avec un tel? Est-ce que je dois me marier avec un tel? Mais laisse-moi vous dire, si la personne ne connaît pas le Seigneur Jésus, la réponse est facile, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes là? Les finances, savez-vous quoi? Le péché complique les finances. Hein? Surtout les personnes qui ont un problème avec les jeux d'hasard ou avec la consommation ou avec toutes sortes de les convoitises des yeux. Ah oui, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Si c'est le Seigneur Jésus qui est le maître de notre vie, les finances deviennent beaucoup moins compliquées. Amen. Parce que dans le fond, c'est plus notre argent, c'est son argent, n'est-ce pas? Et on lui demande, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ton argent? C'est beaucoup plus simple comme ça. Pour moi, c'est simple. C'est vraiment simple. Je reçois de l'argent et c'est simple. C'est déjà pour moi, c'est réglé. Les prémices vont à l'Éternel. La dîme lui appartient déjà. Et ensuite, c'est comme, OK, Seigneur, tu viens de me donner ça. Il y a une partie de ça qui est une semence à semer et une partie de ça qui est du pain à manger. Donc, c'est à toi, Seigneur. Montre-moi qu'est-ce que tu veux que je fasse avec mon argent et je vais le faire, je vais t'obéir. C'est simple. La vie chrétienne, tout le monde dit la vie chrétienne est simple. C'est pas facile, mais c'est simple. Les décisions, les relations, les finances, l'être D, la santé. Combien de vous, vous savez que le péché complique la santé? Combien des maladies transmises sexuellement, ces choses n'existent pas? Il est impossible, laisse-moi vous dire. Un homme vierge avec une femme vierge qui se marie dans le Seigneur et qui reste fidèle l'un à l'autre, il n'y a aucune possibilité qui peuvent attraper la plupart des maladies transmises sexuellement, il n'y a aucun danger. Est-ce que vous êtes là? Et je veux vous réveiller ce matin. Hein? Je veux vous montrer que des fois les personnes pensent, « Oh, mais c'est dur être chrétien. Oh, c'est pas facile. Oh, oh. » C'est beaucoup plus dur d'être atteint par le sida. C'est beaucoup plus dur d'avoir les conséquences du péché. Et là, qu'est-ce que je veux dire ce matin, c'est que si on a tous fait des choses qu'on regrette, n'est-ce pas? Ce matin, le but du message, c'est pas de pointer les doigts et dire « Oh, vous n'aurez pas dû faire ça, vous n'aurez pas dû faire cela. » Il y a de la grâce, il y a de la miséricorde pour tout le monde. Peu importe qu'est-ce que vous avez fait, le sang de Jésus est disponible pour effacer vos péchés et vous pouvez être pur, blanc comme de la neige, n'est-ce pas? Et si vous n'avez jamais connu le Seigneur Jésus, surtout laisse-moi vous dire que Dieu vous aime, il a un plan pour votre vie, il a versé son sang pour vous, il n'y a aucune condamnation dans Jésus-Christ. Mais si nous connaissons le Seigneur Jésus, il faut qu'on se réveille comme Romains 6:1 dit, comme à nous qui sommes sauvés. Comment est-ce qu'on peut continuer dans le péché? Nous avons été délivrés du péché, n'est-ce pas? Puis, lettre E, le temps. C'est beaucoup moins compliqué. Si on marche dans la lumière comme il est dans la lumière, pour de gérer notre temps. Donc, les décisions, les relations, les finances, la santé, le temps, tout est plus simple quand on marche dans la lumière. Amen? Donc, deuxième chose dans vos notes, la clé d'une vie simple, c'est pas un grand secret. La clé d'une vie simple, c'est de marcher dans quoi? Marcher dans l'amour. Voulez-vous savoir comment simplifier votre vie? Voulez-vous savoir comment faire une différence dans le monde? Voulez-vous savoir comment avoir une vie qui peut être distinguée d'avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus? C'est pas un grand secret, c'est vraiment facile. On marche dans l'amour. Pourquoi? Parce que Dieu est quoi? Amour. Pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas qu'on pêche? Parce qu'il nous aime, et il sait que ça fait mal, il sait que ça complique la vie, il sait que ça provoque les douleurs, et ça provoque le tourment, ça provoque toutes sortes de problèmes dans la vie. Et il ne veut pas que ses enfants souffrent, et c'est pourquoi il dit, voici le chemin, voici le sentier que je vous ai tracé déjà. Et c'est pas du tout compliqué, c'est simple, aimez Dieu et aimez votre prochain. Regardons, il y a trois passages qu'on va lire ensemble ce matin, et je veux qu'on les saisisse comme il faut. Jacques 2, 8 dit, « Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. » Donc là, on voit que marcher dans l'amour, c'est appelé la loi royale. Il y a juste une loi dans le royaume de Dieu. Prochaine chose ici, en Romains chapitre 13, verset, 10, verset 8 à 10. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. C'est quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc, vous voyez, la vie chrétienne n'est pas compliquée, c'est simple. Nous aimons Dieu et nous aimons notre prochain. Si j'aime mon épouse, je vous assure, je ne vais pas commettre l'adultère. N'est-ce pas? Si j'aime les gens, je ne vais pas voler. Si j'aime les personnes, je ne vais pas mentir. Je ne peux pas mentir à quelqu'un que j'aime et pas avoir une bonne conscience après. Vous êtes d'accord? Donc, ce n'est pas compliqué. Si vous marchez dans l'amour de Dieu, automatiquement, vous allez rester dans la lumière. Votre vie va rester beaucoup plus simple, être beaucoup moins compliquée. Vous aurez beaucoup moins de souffrance. Alors, c'est tellement simple. Tout le monde dit, c'est simple. Alléluia. Regarde quelqu'un d'autre et dit, vous pouvez le faire. Est-ce que vous le croyez? Combien de vous croyez que vous êtes capable de marcher dans l'amour? Est-ce que vous croyez vraiment que vous êtes capable de rendre votre vie plus simple? Dieu veut qu'on rende la vie plus simple. Galates chapitre 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. Tu peux souligner, par l'amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Soulignez cette parole. Une seule parole. Une seule parole. C'est pas compliqué. Vous êtes d'accord? Tout est accompli dans une seule parole. Celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne vous soyez détruits par les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Juste une chose à remarquer, que dans le grec, les majuscules minuscules n'existent pas. Donc là, on voit esprit E majuscule, mais ce n'est pas forcément juste le Saint-Esprit dont il parle ici. Parce que 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, dit qu'il faut qu'on soit gardé pur esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Vous savez que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps physique. Quand nous sommes devenus une nouvelle création, c'est pas le physique qui a changé. Vous êtes d'accord? Si quelqu'un a les cheveux bruns avant d'être né nouveau, ça va pas changer de couleur du jour au lendemain. Peut-être avec les années, ça peut changer de couleur, mais... Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous avez des yeux bleus, vous allez garder vos yeux bleus. Votre âme, qui est votre intellect, votre volonté, vos émotions, votre âme n'est pas changée non plus automatiquement. Ça, il faut changer par le renouvellement de l'intelligence. C'est une transformation graduelle. Mais votre esprit est régénéré. Et dans votre esprit, vous avez la nature divine. Et c'est pourquoi ce verset dit, si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi est-ce que ça c'est important? Parce que dans mon cœur, je, le vrai moi, je veux toujours, sans exception, faire la volonté de Dieu. Dans mon esprit, parce que je suis né de nouveau, parce que je connais Jésus, mon cœur veut toujours faire le bien. C'est pourquoi, en tant que chrétien, si je fais quelque chose qui n'est pas correct, mon cœur n'est pas bien. Vous êtes d'accord? Combien de vous, vous savez de quoi je parle? Vous faites quelque chose que vous savez c'est pas correct. Peut-être vous allez mentir, vous allez faire quelque chose qui n'est pas bon. Vous regardez quelque chose que vous devrez pas regarder. vous dites les choses que vous ne devrez pas dire. Et dans votre cœur, tout de suite, votre conscience est en train de dire, ça, c'est pas correct. Est-ce que je suis le seul comme ça? Non. Vous savez de quoi je parle? Vous savez, à chaque fois qu'on fait quoi que ce soit qui n'est pas selon la volonté de Dieu, notre cœur nous témoigne que non, vous n'êtes pas sur la bonne piste. Mais, c'est quoi le problème? C'est parce que quand je suis né de nouveau, mon cœur était né de nouveau, mais mon corps physique est encore infecté par le péché. Et j'ai qu'est-ce que la Bible appelle la chair, qui a les désirs qui sont le contraire de qu'est-ce que mon esprit désire. Mon esprit veut faire le bien. Mon corps veut faire le mal. Amen? Et c'est pourquoi, comme on va voir, on a deux votes. Un vote pour faire ce qui est mal, un vote pour faire qu'est-ce qui est bien. Et c'est quoi qui va faire la différence? Mon âme. Si mon âme se met en accord avec mon esprit, et je marche selon l'esprit, mon corps est obligé de suivre. Mais si mon âme se met en accord avec mon corps, ma chair, je vais faire qu'est-ce qui est mal, et mon esprit est obligé de suivre tout en criant, non, 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 fais pas ça. Amen? Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que, dans notre esprit, pourquoi est-ce qu'il faut marcher selon l'esprit? C'est parce que Romains 5:5, c'est pas dans vos notes, mais écrivez cela, Romains 5:5. Romains, chapitre 5, verset 5, dit quelque chose de bien important. Que l'espérance ne nous trompe pas. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez saisi cela? L'amour de Dieu, c'est pas une chose future, c'est une chose passée. L'amour de Dieu a déjà été déversé ou placé dans votre esprit, dans votre cœur. Donc l'amour divin, Dieu est amour, n'est-ce pas? L'amour divin est déjà dans mon esprit. Et si je suis mon esprit, je marche dans l'amour. Si je marche dans l'amour, je suis mon esprit. Je n'accomplis pas les désirs de la chair. Et je marche dans la lumière comme il est dans la lumière, n'est-ce pas? C'est pas compliqué. C'est vraiment, vraiment simple. Je suis le témoin intérieur de mon cœur qui me dit toujours d'aimer mon prochain comme je m'aime moi-même. Et si j'aime mon prochain comme je m'aime moi-même, je ne vais jamais faire quelque chose qui n'est pas correct. Amen? Alléluia. On va lire deuxième page de vos notes. On va finir juste avec quelques conseils pratiques. On va lire 1 Corinthiens 13, 4 à 8, qui décrit l'amour de Dieu, l'amour divin. C'est pas un amour naturel ici. C'est pas un amour que un homme ou une femme qui ne connaît pas Jésus peut avoir. C'est un amour surnaturel. Avez-vous compris? Surnaturel. C'est pourquoi vous dites des fois, « Ah, oh, mais je ne suis pas capable d'aimer tel, un tel, ou je ne suis pas capable d'être patient avec lui, ou je ne suis pas capable de pardonner cette personne-là. » Laisse-moi vous dire, en vous-même, dans votre chair, vous êtes dans l'impossibilité. Mais le vrai vous, qui est créé dans l'image de Jésus-Christ, et qui a l'Esprit Saint en lui, et qui a l'amour de Dieu répandu dans son cœur, oui, vous êtes capable d'aimer comme Dieu nous a aimés. Est-ce que Jésus nous donne un commandement pour nous frustrer? Croyez-vous que si Dieu lui-même nous demande à faire quelque chose, croyez-vous qu'on est capable de faire ce qu'il nous demande? Franchement, qu'est-ce que Jésus a dit? Un nouveau commandement, je vous donne. Il a dit ça, je vous donne un commandement, un nouveau commandement. C'était quoi le nouveau commandement? Aimez-vous les uns les autres, et c'est quoi la dernière partie de la phrase? Comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres, pas comme le monde. Mais voici le commandement, c'est pas une suggestion. Savez-vous la différence entre une suggestion et un commandement? Suggestion, c'est comme si ça te tente, si tu as le goût, c'est ça que je veux que tu fasses. Hein? Souvent, on n'a pas le goût, vous êtes d'accord? À un moment donné, il y avait des personnes qui disaient, oh, mais j'ai pas le goût, hein? J'avais une idée. J'ai imprimé sur le morceau de papier, juste un petit morceau qui disait le goût. Donc, quand quelqu'un disait, mais j'ai pas le goût, j'ai donné le morceau de papier. Maintenant, vous avez le goût. Non. Mais vous savez, c'est pas une question d'avoir le goût, pas avoir le goût. Si c'est un commandement, c'est oui, chef. Dans l'armée. Hein? Le capitaine dit à un soldat, je veux que tu fasses telle chose. Et il dit, mais non, je sais pas, ça me tente vraiment pas aujourd'hui. J'ai vraiment pas le goût d'attaquer l'ennemi aujourd'hui. J'aime mieux jouer aux cartes ici, hein, en arrière du front. Non, quand le capitaine dit, je veux que tu vas à l'attaque, qu'est-ce qu'on dit? Oui, chef! Si on a le goût ou on n'a pas le goût, ça fait aucune différence. Donc, Jésus a dit, voici le commandement. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est lui le chef? Et quand Jésus dit, OK, mon armée, je vous donne les ordres. Aimez-vous les uns les autres, exactement de la même façon que je vous ai aimé. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, chef. Tu veux dire lui aussi? Oui, lui aussi. Oui, chef. Amen. C'est pas une question de goût, c'est une question d'obéissance. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que l'amour de Dieu, c'est inconditionnel et aimer, c'est une décision qu'on prend. J'ai pris une décision d'aimer mon épouse. Je me suis marié avec elle il y a 21 ans et j'ai fait une promesse que je serai fidèle à elle jusqu'à la mort. Et j'ai l'intention de garder ma parole. C'est pas, est-ce que je peux vous avouer quelque chose? Je suis vraiment en amour avec mon épouse. On a un bon mariage, mais dans 21 ans, il y avait des jours où j'avais pas le goût. Oh. Je sais que je vous ai vraiment déçu parce que vous pensiez que j'avais une vie parfaite. Et non, laisse-moi vous dire, émotionnellement, il y a des matins où on n'a pas tout le coup de foudre et les émotions. Des fois, c'est juste une décision, n'est-ce pas? Et les feelings, les sentiments, si on fait la bonne chose, vont revenir, n'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez ce matin? C'est la même chose. On marche pas par les émotions, on marche pas par les sentiments, on marche par la foi. Et laisse-moi vous dire, je sais, parce que c'est pas toujours évident, on a des moments où c'est difficile, et il y a des personnes qui ont vécu toutes sortes de choses dans leur vie. Je suis pas en train de pointer le doigt à qui que ce soit. J'aimerais être capable de dire que ce matin, que depuis l'âge de 10 ans, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, que j'ai toujours obéi à Dieu. Mais je serai le plus grand des menteurs. J'ai passé par des moments difficiles, j'ai passé par des moments de révolte et de rébellion, j'ai fait des gaffes, j'ai fait des choses de pas correctes, surtout dans mon adolescence, mais laisse-moi vous dire que Dieu m'a toujours aimé. Et Dieu était toujours là avec ses bras grands dans le vent pour me recevoir. Je pourrais courir avec lui, à lui, c'est « Papa, je m'excuse, je suis désolé, je me répands. » Il est toujours là pour nous prendre de nouveau dans ses bras, n'est-ce pas? Donc, je ne veux pas que ça soit tordu ce matin. Mon message, c'est un message d'encouragement. Vous êtes capables d'aimer comme Christ nous a aimés. Et comment est-ce qu'il nous a aimés complètement, sans condition? Il a donné sa vie pour nous, n'est-ce pas? Celui qui aime, verset 4, et ça c'est une version dans la parole vivante, celui qui aime est patient. Il sait attendre. Wow! Savez-vous qu'à chaque fois que vous lisez une phrase dans ce verset, que vous êtes en train de lire une description de vous-même? Parce que l'amour de Dieu est dans votre cœur, n'est-ce pas? Vous êtes créé à l'image de Dieu, et si Dieu est amour, Dieu est patient, et Dieu sait attendre, et parce que c'est mon Père, j'ai la même nature que lui, je suis patient et je sais attendre. Tout le monde dit, je suis patient? Je sais attendre. Mon cœur est largement ouvert aux autres. Mon cœur est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Je cherche à être constructif et me plaît à faire du bien aux autres. Est-ce que vous voyez le principe ici? Je vais continuer. L'amour vrai n'est pas positif. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale et sent d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des gardes et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, c'est ne pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable, il ne s'aigrit pas contre les autres, il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. N'est-ce pas une bonne nouvelle? L'amour couvre tout, il souffre, endure et pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout surmonter. L'amour n'aura pas de fin. Les prédications inspirées passeront, les prières en langue cesseront, nos connaissances en miroir, mais on sait que l'amour ne périra jamais. Ça, c'est vraiment quelque chose de lire cela et de penser que ça, c'est ce qui est répandu dans mon cœur. Que Dieu m'a rendu capable. Tout le monde dit, je suis capable. Dieu m'a rendu capable de faire tout ce qui est écrit là. N'oublions pas, je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. On va le dire encore, je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Encore, Dieu ne met pas ces choses dans la Bible pour nous frustrer, mais pour nous exhorter. Et je veux juste vous donner, avant de terminer, aujourd'hui, et c'est, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu ce passage-là, j'ai lu dans le français courant et dans 5 ou 6 autres versions, et j'ai médité cela. Et j'ai comme fait une liste des éléments clés en 1 Corinthiens 13, 4 à 8, que qu'est-ce que Dieu nous demande à faire pour tout simplement marcher dans l'amour. Quelqu'un qui marche dans l'amour, qu'est-ce que ça a l'air? Et c'est pas une liste que je veux que vous fassiez comme, oh bon, aujourd'hui je vais faire numéro 1, 2, 3, 4, jusqu'à 16. Non, non, non. C'est juste, je vous donne l'ensemble des éléments qui décrit quelqu'un qui marche dans l'amour. Parce que n'oubliez pas, le but aujourd'hui, c'est de simplifier notre vie. Le but aujourd'hui, c'est que vous sachiez que marcher dans la lumière, comme il est dans la lumière, c'est pas compliqué, c'est simple. Pas toujours facile, parce que la chair va nous combattre tout au long. Vous êtes d'accord? La chair va résister, la chair va dire, non, pardonne-lui pas! N'est-ce pas? Mais, on est capable. Donc, numéro 1, apprendre à attendre avec patience. Laisse-moi vous dire, s'il y a des jeunes ici ce matin, j'entends souvent des ados, des jeunes qui... Et aujourd'hui, c'est triste parce qu'ils disent que la plupart des jeunes aujourd'hui vont commencer à avoir des relations sexuelles autour de 13 ans, des fois 12 ans, 12, 13, 14 ans. C'est là où les relations sexuelles commencent. Ça n'a pas de bon sens. Et souvent, les personnes disent, « Oh, mais je t'aime, je ne peux pas attendre d'être marié. » L'amour, c'est attendre. Laisse-moi vous dire, la convoitise ne peut pas attendre. Il y a une grosse différence entre la convoitise et l'amour. N'oubliez pas ça. Apprendre à attendre avec patience. Ouvrez votre cœur, numéro 2, ouvrez votre cœur largement aux autres. L'amour ouvre son cœur aux autres. Oui, mais si j'ouvre mon cœur, je peux me faire mal. Oui, c'est vrai. Et on va parler de ça dans une minute. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut ouvrir notre cœur à n'importe qui, n'importe quand. Mais en général, on devrait avoir un cœur ouvert à Dieu et ouvert aux autres, tout en sachant qu'on veut offrir l'amour de Dieu à notre entourage. On veut offrir un don gratuit, un monde, comme nous, nous étions indignes de recevoir la vie éternelle, mais quelqu'un a osé nous parler de Jésus, n'est-ce pas? Et je pense qu'en quelque part, il faut prendre le risque d'ouvrir notre cœur, de partager notre foi, de partager notre vie avec quelqu'un, tout en sachant que c'est fort probable, comme c'était le cas en Actes chapitre 17 avec l'apôtre Paul, à Athènes, quand il a prêché, il y avait 3 réactions. Il y a des personnes qui se moquaient de lui. « Oh, t'es fou! » Il y a d'autres personnes qui disaient, « qu'est-ce que tu dis? Ça a bien de bon sens, mais... » On a besoin d'entendre plus. Il y a d'autres personnes qui ont cru. Et il faut en quelque part qu'on apprenne que notre vie est cachée en Jésus-Christ. Et si quelqu'un rejette l'Évangile, ce n'est pas nous qui sommes en train de rejeter, ils sont en train de rejeter Jésus. Amen. Et il faut ouvrir notre cœur largement aux autres. Et il faut aimer les gens au nom de Jésus. Numéro 3, servez les autres du bon cœur. Si on aime quelqu'un, on va servir quelqu'un, n'est-ce pas? Et il y a des versets en parenthèse que je vous encourage à aller lire et méditer à la maison. Numéro 4, cherchez à être constructif et faire du bien aux autres. Constructif. Combien des fois on a besoin juste de quelqu'un qui peut nous édifier? Est-ce que vous aimez ça, que quelqu'un vienne à côté de toi pour t'encourager, pour t'édifier? Ça fait une belle job cette semaine. Alors, je veux juste que tu saches que je t'apprécie. Tu es une bénédiction. Je suis content que le Seigneur t'a placé dans ma vie. Je suis heureux de t'avoir comme frère, comme sœur. Et chercher à être constructif, c'est comme on essaie d'enseigner à nos enfants. Si vous n'avez pas quelque chose de bon à dire, c'est mieux de vous taire et de dire rien. N'est-ce pas? La Bible dit qu'aucune mauvaise parole sort de votre bouche, mais seulement les paroles qui vont communiquer une grâce et édifier ceux qui l'entendent, n'est-ce pas? Cherchez à être constructif. On est là pour bâtir le royaume de Dieu, pas pour détruire le royaume de Dieu. Et on sait, des fois c'est juste une question, est-ce que le verre est à moitié plein ou à moitié vide? On peut regarder n'importe quel frère ou sœur dans le Seigneur et voir quelque chose à critiquer chez eux. Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis sûr et certain. Probablement, la plupart de vous, vous m'avez critiqué au moins une fois et vous avez aussi dit des bonnes choses et vu des bonnes choses. C'est facile à voir les défauts et les faiblesses chez les autres, n'est-ce pas? C'est des fois, on dit, ah, c'est flagrant, mais des fois, on a besoin d'essayer de voir il y a quand même des bonnes choses. Amen? Et de mettre l'accent sur qu'est-ce qu'on voit qui est bon, et de prier pour les personnes, pour qu'on puisse tous grandir et être édifiés dans le Seigneur Jésus. On est tous en route, et il n'y a personne qui est rendu à la perfection. Vous êtes d'accord? Alléluia. Numéro 5, c'est comme dans un mariage. Hein? Laisse-moi vous dire, si un mari et une femme peuvent apprendre le secret de bâtir, de construire au lieu de détruire, au lieu de critiquer, de complimenter, quelle différence ça ferait? Numéro 5, ne donnez pas place à la jalousie. Savez-vous que la jalousie détruit la vie? Oh, comment ça qu'il a été béni? Oh, moi aussi je suis fidèle, moi aussi j'aime Dieu, pourquoi est-ce que je n'ai pas eu cette bénédiction-là? Vous savez, la jalousie, qu'est-ce que ça fait? Ça ferme la porte aux bénédictions pour vous. Au lieu de tu vois quelqu'un qui conduit un nouveau char, tu dis, mais c'est pas juste moi aussi, j'aimerais avoir un nouveau char. Mais, meilleure chose à faire, commence à se réjouissez-vous avec celui qui a le nouveau char. Votre nouveau char va venir beaucoup plus vite. Non, mais c'est vrai, hein? On voit tellement de jalousie. Oh, mais lui, c'est pas correct. Ouh. C'est un peu, je sais, hein? On voit ça chez les enfants. Il a eu 2 biscuits, je n'ai qu'un seul biscuit. Et on dit, franchement, c'est ridicule, c'est un biscuit. Mais pour les adultes, c'est autre chose, hein? Mais pour nous, c'est correct. Oh, c'est un char, ou c'est une blonde, ou un jambe, ou c'est quoi que ce soit. C'est quelque chose qu'on veut et on l'a pas, et on est jaloux. Et ça ferme la porte à Dieu. Dieu ne peut pas nous bénir avec une telle attitude. Mais si au contraire on dit, « Hey, je suis content pour toi. Gloire à Dieu. Hey, tu sais quoi? Ça m'encourage parce que je sais une chose. Je sais que Dieu ne fait pas de favoritisme. Et si Dieu t'a béni, il va me bénir aussi. Donc je suis tellement content que tu as eu cela. Parce qu'il va faire la même chose pour moi ou quelque chose de semblable ou quelque chose de mieux même. Amen. Alléluia. Donc, numéro 6, marcher dans l'humilité. On parle de comment marcher dans l'amour. L'amour est humble. L'amour ne se vante pas. Et la Bible dit encore que Dieu donne sa grâce aux hommes, mais il résiste aux orgueilleux. Numéro 7, conduisez-vous avec droiture et tact. Ça, c'est quelque chose qu'on a besoin d'apprendre des fois. Des fois, on peut dire la bonne chose, mais c'est la manière qu'on le dit, n'est-ce pas? On va chez le médecin. On a des infirmières dans l'église, on a au moins 3 les infirmières, je pense, dans l'église. Mais moi, je sais, j'ai eu dans ma vie plusieurs piqûres. Hein? Est-ce que, combien de vous, vous avez eu des piqûres? On peut avoir plusieurs genres d'expérience avec une infirmière, vous êtes d'accord? Soit l'infirmière arrive avec une syringe en disant, mais c'est ça qu'il faut? T'as besoin de ça? Bon. OK, oui, c'est vrai, j'avais besoin de ça, mais comme ça? Ou elle peut arriver doucement, et tu sais, ça peut piquer un peu, et elle prépare la place, et elle parle doucement, et puis avec autant de tendresse que possible, elle va donner la piqûre. Ça, c'est beaucoup plus agréable, n'est-ce pas? C'est le tact, des fois, qui manque chez les chrétiens, n'est-ce pas? Il y a des choses qu'on a besoin de dire, des fois, mais la Bible dit qu'il faut dire la vérité avec amour. Et la façon qu'on communique, et la façon qu'on parle, la façon qu'on dit les choses fait toute une différence. Amen. Évitez de blesser ou de scandaliser les autres. Évitez de blesser ou de scandaliser les autres. Comme la Bible dit, ne soyez pas en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. Il faut qu'on prenne une décision en sachant que tout ce que je fais dans la vie peut affecter mon entourage. Numéro 9, cherchez toujours les intérêts des autres avant les vôtres. Si je vis juste pour moi-même, une vie égocentrée, ça marche pas. Combien de vous savez que moi, je crois que le plus grand problème dans la plupart des mariages, dans la plupart des relations, que ce soit même dans les affaires, c'est l'égoïsme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si on pourrait juste penser à l'autre personne avant de penser à soi-même, ça ferait un monde de différence. Alléluia. Il y a un verset que je vais juste lire. « Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » Ça va avec numéro 10 qui dit « Ne soyez pas irrité. » Ah, je sais que j'ai eu besoin, j'ai encore besoin des fois de travailler là-dessus. Parce que des fois, il y a des choses qui m'irritent. Est-ce que vous êtes des fois irritable? Non? Ah, non, mais des fois, ça arrive, quelqu'un dit quelque chose, il fait quelque chose, je vois quelque chose et ça me tombe sur les nerfs. Mais l'amour de Dieu est dans mon cœur et l'amour n'est pas irritable. Dans le fond, si je marche vraiment de son esprit, je ne devrais pas laisser les autres irriter mon cœur. Amen? Impossible. Numéro 11, ne soupçonnez pas le mal chez les autres. Ne soupçonnez pas la mal chez les autres. Ça, c'est une clé pour une belle vie. Oh, mais je pense. Il y a des personnes qui ont toujours un complot dans la tête. N'est-ce pas? Combien de vous connaissez des personnes? Ne levez pas la main parce que peut-être vous êtes marié avec la personne, je ne sais pas. Non. Mais, il y a toujours un complot. Quelqu'un arrive vêtu en bleu et je sais pourquoi il a porté cette chemise-là. C'est parce qu'il sait que la semaine passée, j'ai fait un dessin et je l'ai fait en bleu et j'ai raté mon dessin. Et lui, il veut juste que je pense à mon dessin raté. Moi, je sais pas. C'est ridicule, hein? Mais combien de vous avez vécu ça? Ça arrive assez souvent, hein? Même moi, des fois, je peux être, et il faut que je fasse attention, des fois, j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de gens à voir, et si je passe devant quelqu'un, sans le voir, et ça arrive des fois, la personne peut créer toute une histoire dans sa tête. Oh, le pasteur, j'ai déjà eu des personnes, peut-être il sait qu'est-ce que j'ai fait. Il est fâché avec moi parce qu'il a entendu parler que j'ai fait une gaffe cette semaine. Et blah, blah. Laisse-moi vous assurer. Je ne suis pas au courant de toutes ces choses-là. Hein. Mais non, c'est ça. Mais des fois, il y a des histoires qui sont inventées parce que, oh, tu vois ça? Il m'a pas regardé, il m'a pas donné la main, il n'a pas dit bonjour, ou il souriait pas, donc il doit être fâché avec moi. J'ai déjà eu des personnes venir me voir et dire, pasteur, est-ce que tu veux, aimerais mieux-tu que je quitte l'église? Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais parce que je sais pas, je pensais que peut-être tu étais fâché avec moi. Mais pourquoi? Je ne sais pas, mais tu souriais pas. Désolé! Je m'excuse! Je t'aime, je suis content que tu es là. Je sais pas, hein. Peut-être que j'avais des gages, je ne sais pas. j'ai aucune... Bon, il faut rire des fois, hein. Ne soupçonne... J'aurais pas à dire. Est-ce qu'on peut éditer la cassette? OK. OK, bon. Ne soupçonnez pas le mal chez les autres. Si quelqu'un vous fait tort, n'en gardez pas rancune. Il faut être capable de pardonner comme Christ nous a pardonné. Amen. Oh, comme je dis, l'amertume, c'est un acide qui mange son propre conteneur. Avez-vous entendu cela? L'amertume, c'est un acide qui mange son propre conteneur. Si on garde l'amertume ou la rancune, c'est pas l'autre qui va souffrir, c'est nous. 9 fois sur 10, on est fâché, on veut pas pardonner, l'autre personne a déjà oublié il y a 5 ans. Pourquoi est-ce que vous êtes fâché? Je m'en souviens même pas. Lui, il est en train de vivre une belle vie. Mais toi, tu es en train de créer les ulcères et souffrir pour une chose que l'autre a oubliée il y a 5 ans. Numéro 13. Placez-vous du côté de la vérité. Placez-vous du côté de la vérité. Ça, c'est marcher dans l'amour. Numéro 14. Je vais terminer. Apprendre à passer par-dessus les fautes d'autrui. Ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Est-ce que vous aimez ça quand les autres font ça pour vous? Ils voient vos faiblesses, ils voient vos problèmes, mais ils sont capables de passer par-dessus et vous aiment quand même. Ça, c'est la vraie amitié, n'est-ce pas? Moi, j'ai quelques-uns de mes meilleurs amis. Moi, j'ai un ami en particulier. Je ne le vois pas souvent, une fois, chaque 2-3 ans, mais c'est un de mes meilleurs amis. Mais c'est une personne qui a pas mal de faiblesses. Une personne, un homme de Dieu qui est dans le ministère, mais dans sa personnalité, il a une tendance à frustrer les gens autour de lui. Comme quelqu'un a déjà dit, quand tu es dans sa présence, ça prend juste un casque de construction, c'est tout, parce que le Seigneur n'a pas fini son œuvre en lui. Mais c'est un de mes meilleurs amis. Et parle-moi pas en mal à propos de mon ami, parce que je l'aime. Et je vois ses défauts. Je parle pas de... C'est pas une question de malhonnêteté. C'est pas une question qu'il est en train de vivre dans le péché ou de faire des choses comme ça. Non. Mais il a une personnalité qui peut brasser les choses des fois. Mais je l'aime. Et je vais toujours l'aimer. C'est mon frère. Amen. Je suis capable de passer par-dessus ses défauts. Ça, c'est juste lui. Je le connais bien. Ça fait peut-être maintenant 30 ans. Exactement. 30 ans que je le connais. Et c'est mon ami depuis 30 ans. Donc, numéro 15, faites confiance aux autres et attendez le meilleur d'eux. Oh, wow, ça c'est un bon conseil à faire, à suivre. Faites confiance, mais je peux pas toujours faire confiance. Oui, vous avez raison. Mais, combien de fois vous travaillez avec l'informatique? On a des paramètres de défaut, n'est-ce pas? Je crois que notre paramètre de défaut devrait être « je fais confiance et je crois le meilleur ». Jusqu'au moment que j'ai la preuve du contraire. Le problème, c'est que dans le monde aujourd'hui, même dans l'Église, le paramètre de défaut dans la plupart des vies, c'est « je ne fais pas confiance et je soupçonne le mal jusqu'au moment qu'il me prouve le contraire. » Est-ce que vous voyez la différence? La vie est beaucoup, beaucoup plus simple. On court le risque d'être blessé, oui. Mais moi, laisse-moi vous dire, on court le risque d'être beaucoup plus blessé si on a toujours un soupçon, si on a toujours méfiance avec tout le monde. On n'ouvre jamais notre cœur. Combien des relations est-ce que nous avons ratées? Les choses que, les bénédictions qu'on aurait pu vivre, mais on n'était pas capable parce qu'on était fermé à cause des blessures du passé. Parce que j'étais blessé et déçu dans le passé, j'ouvre plus mon cœur. Mais moi, j'aimerais mieux être fort dans le Seigneur. Dis, Seigneur, je vais croire le meilleur. Et le paramètre de défaut chez moi, c'est je fais confiance aux gens. Et je sais que moi, je vais vous avouer, j'ai une faiblesse là. Parce que je crois vraiment. Je suis une personne, je dis la vérité, je crois le meilleur des gens. Et souvent, ça m'est arrivé d'être déçu. Souvent. Mais j'aime mieux être déçu que de ne pas de rater l'occasion d'avoir une relation vraiment, vraiment bénissante avec une personne parce que j'étais méfiant. Est-ce que vous me suivez? paramètre de défaut chez les chrétiennes, ça devrait être je fais confiance, la personne est innocent jusqu'au moment qu'il est prouvé coupable. Et par le contraire, la personne est coupable jusqu'au moment qu'il soit prouvé qu'il est innocent. Oh, c'est un peu plus silencieux dans la salle maintenant. Mais peut-être vous avez des gages, je ne sais pas. Il fallait rire là, hein? Numéro 16. Deux places à éditer aujourd'hui. Espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. Espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. Espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. Dieu veut qu'on ait de l'espérance. Qu'on espère le meilleur. Qu'on croit que, oui, Dieu est capable de travailler dans ma vie. Oui, Dieu est capable de guérir les relations. Je peux vous dire une chose? C'est le fun. Je peux vous dire que aujourd'hui, ma mère est là, elle va partir vendredi. Elle vient de partir 6 semaines avec nous. Je suis vraiment content qu'elle a pu passer ce temps avec nous et nos enfants. Mais je peux vous raconter une histoire de la fidélité de Dieu. Vous savez, moi j'ai un frère biologique. Ma mère s'est mariée quand j'avais 15 ans avec un autre monsieur qui avait 2 enfants, une fille et un garçon. Et moi et mon frère... Et mon autre frère, pas biologique, on ne marchait vraiment pas du tout avec le Seigneur quand ils se sont mariés, mais ma sœur, oui. Mais finalement, moi, j'ai donné ma vie au Seigneur, mais j'ai reconsacré ma vie au Seigneur quand j'avais 17 ans. Mon frère a vécu 20 ans dans le trouble et dans la vie compliquée dont on parle, 20 ans. Et il y a juste 2 ans qu'il est vraiment revenu au Seigneur, n'est-ce pas, merveilleux, après 20 ans? Et maintenant, mon autre frère, juste depuis un mois, il est vraiment revenu au Seigneur. Il est à l'église ce matin avec son père. Tous les 4 en train de vivre pour Dieu. Mais il ne faut jamais perdre d'espoir. Ça a pris 25 ans, mais toute la famille marche avec le Seigneur maintenant. N'est-ce pas merveilleux? C'est pourquoi il faut... C'est bon, hein? C'est pourquoi il ne faut jamais faiblir dans notre espérance. Il ne faut jamais abandonner. Dieu est bon. Et Dieu est fidèle. Ma mère pourrait te raconter des histoires de des années où tout ce qu'elle voyait, c'était le contraire. Tout ce qu'elle voyait, c'était « Oh, ça ne marche pas. » Mais Dieu est fidèle. Et l'amour qui est dans notre cœur ne nous trompe pas. Amen. Alléluia. Romains 5, 5. L'espérance ne nous trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.